VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, des assaillants lourdement armés ont attaqué aujourd'hui à l'aube deux camps militaires de la capitale avant d'être repoussés après plusieurs heures d'affrontement. Les plus intenses au Burundi depuis la tentative de coup d'état militaire déjouée les 13 et 14 mai. Aucun bilan précis n'est disponible dans l'immédiat, mais de nombreux riverains des camps contactés par l'AFP ont fait état de combats particulièrement violents dans la capitale. Un haut gradé de l'armée dit que tous les ponts de la capitale sont sous le contrôle des autorités qui a disposé des blindés. Et puis les ambassades des États-Unis, de Belgique, de France et des Pays-Bas ainsi que l'ONU ont appelé aujourd'hui leurs ressortissants et employés à ne pas quitter leur domicile. J'ai joint tout à l'heure notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, son témoignage.
Tout à l'heure, Bujumbura était sous les feux. On entendait des tirs, surtout dans les quartiers contestataires, dans les quartiers de Moussaga, de Ngagara, de Tchik. C'était presque toute la ville. Mais maintenant, les tirs ont diminué d'intensité. On entend sporadiquement des tirs dans certains quartiers. Il y a des militaires, des policiers de l'appui pour la protection des institutions qui sont en train de ratisser dans ces quartiers contestataires. Quand ils passent, les policiers, ils tirent. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, dans le quartier où je suis, des gens qui étaient en train de crier au passage de ces policiers. Mais pour le moment, je peux dire que là où je suis, c'est un peu calme.
Bon, alors, il y a eu des attaques contre deux camps, le camp de Ngagara et le camp de l'ISCAM, qui est l'école des officiers de l'armée. Apparemment, les forces gouvernementales ont repris le dessus.
Parce que pour le moment, il est difficile d'aller sur place et de vérifier les informations qui sont diffusées par les autorités de Bujumbura. Mais toujours est-il que c'était vraiment intense au début de la matinée. Mais je ne peux pas vérifier. Il faut que moi aussi je me dirige vers ces endroits pour dire qu'il y a des insurgés, entre guillemets, qui auraient attaqué ces camps.
Christophe Nkurunziza, correspondant permanent de VOA Afrique à Bujumbura. Un peu plus tôt, Jean-Roger Bion avait pu joindre Albin Isaac, un habitant de Bujumbura. On écoute son témoignage.
Les tirs ont commencé vers 3h du matin. Le camp ISCAM, Institut supérieur des cadres militaires, a été attaqué, et le camp Mohara de Bujumbura ainsi que le camp Ngagara. Jusqu'à présent, personne ne peut accéder à sa maison. Nous sommes tous à la maison. Seuls les militaires du camp présidentiel et la police de protection des institutions nous entourent et protègent surtout le palais présidentiel. Les tirs continuent, les bombes, les obus aussi continuent à sonner jusqu'à maintenant dans le cas de Moussaga, Nyakabiga, les gens de Nyakabiga.
Alors, qu'est-ce que les autorités ont annoncé?
La radio-télévision du Burundi, aucun message n'a été donné parce que ni les porte-paroles, aucune autorité ne peut pas accéder à sa maison. Tous se trouvent à la maison. Aucun partie ne peut pas passer. Aucune personne ne peut pas passer dans la route. Donc, tous se trouvent dans la maison. Donc, vous comprenez que tous se trouvent dans les maisons et les bombardements continuent jusqu'à présent.
Est-ce que les militaires sont dans les rues?
Oui, pour nous, moi je suis à Kilili, donc nous sommes entourés par les soldats, donc les cas présidentiels et les policiers de l'appui. Donc ils essayent de protéger le palais présidentiel, mais les tirs continuent à se bombarder dans le quartier de Moussaga, Gatekebouyi et Nyakabiga. Nyakabiga, les gens qui s'y trouvent, ils crient au secours pour qu'il y ait un secours comme ça.
C'était le témoignage de l'habitant de Bujumbura, Albin Isaac, au plus fort des combats dans la capitale.
VOA Afrique, en direct de Washington.
République centrafricaine maintenant, le projet de constitution de la 6e République soumis à référendum dimanche prévoit des références constantes à la corruption des dirigeants et à la prolifération des bandes armées qui ont abouti à la déliquescence de l'État et à des massacres intercommunautaires. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Le texte de la nouvelle constitution stipule dans son article 24 que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'article 123 précise que cette disposition est expressément exclue de toute éventuelle révision ultérieure de la loi fondamentale. Ce qui est réellement nouveau, c'est la volonté de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Ainsi, l'affairisme devient un crime de haute trahison jugé par une haute cour de justice selon l'article 107 pour le chef de l'État, les ministres et les députés. La nouvelle constitution centrafricaine entend également lutter contre le fléau des bandes armées. La formation de milices sera jugée par la haute cour de justice et aucun groupe armé ne peut se transformer en un parti politique selon l'article 20. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut n'avoir jamais été membre d'une milice ou d'une rébellion armée. De même, toute personne qui organise des actions de soutien diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie est interdite d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État.
Le procureur général de la République démocratique du Congo a sollicité auprès de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de 3 députés d'opposition qu'il veut poursuivre pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a affirmé hier Aubin Minaku, président de la Chambre basse, lors d'une séance plénière. Cette affaire intervient alors que le climat politique en RDC est très tendu. Depuis plusieurs mois, l'opposition soupçonne le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de chercher par tous les moyens à contourner l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de se représenter en 2016. Et puis en Angola, 4 opposants jugés depuis 4 semaines ont entamé une grève de la faim pour exiger la conclusion rapide de leur procès. Le point avec Lionel Gaïma.
Les 4 militants font partie d'un groupe de 17 leaders politiques de la société civile arrêtés en juin dernier sous l'accusation de rébellion et de tentative de coup d'État. Ils sont tous membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui exige le départ du président Dos Santos au pouvoir depuis 1979. Dans une lettre ouverte au chef de l'État angolais, les militants avaient menacé d'entamer une grève de la faim si leurs interrogatoires n'étaient pas conclus en fin de semaine. Parmi eux, le rappeur Luati Beirao, dont l'épouse s'inquiète de l'état de santé. C'est très difficile pour les prisonniers. Ils ont été en cellule d'isolement pendant près de 100 jours et ils ne voyaient le ciel qu'une heure par jour, a confié Monica Berayo à l'AFP, ajoutant que son mari était déjà fragilisé par une première grève de la faim. Les accusés nient toute intention de mener un coup d'État, assurant mener une lutte pacifique.
En Tanzanie, le nouveau président John Magufuli a présenté en partie son gouvernement hier. Il est bien resserré, comme il avait promis pendant sa campagne électorale, Eddie Sango.
Ce sera un gouvernement rétréci avec 19 ministres. John Magufuli en a nommé 15 et cherche à pourvoir 4 portefeuilles, dont ceux de finances et du tourisme. Les présidents tanzaniens avouent qu'il ne les a pas encore trouvés et demandent patience. Plusieurs ministères du gouvernement sortant ont été regroupés pour réduire les dépenses publiques. 7 ministres ont été reconduits, dont Hussein Mwinyi, fils du deuxième président de la Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, qui conserve son poste à la Défense. L'ancienne représentante de la Tanzanie aux Nations Unies, Augustine Mahiga, devient ministre des Affaires étrangères. C'est la seule entrée marquée dans la nouvelle équipe. Depuis sa prise de fonction début novembre, M. Magufuli a multiplié les initiatives pour combattre la corruption et les gaspillages. Il a remplacé les festivités de l'indépendance par une campagne de nettoyage. Il s'est mobilisé comme un citoyen ordinaire pour ramasser les ordures dans un marché aux poissons à Dar es Salaam.
En Arabie Saoudite, fin de la campagne pour les premières élections ouvertes aux femmes candidates, mais les perspectives de voir des femmes élues samedi semblent très minces. Au total, plus de 900 femmes sont en lice face à quelques 6000 hommes. Et cela pour siéger dans les 284 conseils municipaux du royaume, des assemblées chargées de s'occuper des rues, des parcs ou du ramassage des ordures, par exemple. Ce scrutin est considéré comme un petit pas en avant vers l'égalité des sexes dans ce royaume ultra-conservateur qui est le dernier État à refuser aux femmes le droit de vote. Mais les Saoudiennes restent soumises à de nombreuses restrictions, comme l'interdiction de conduire, un cas unique au monde, une situation qui pourra empêcher une partie des électrices de se rendre dans les bureaux de vote. Et on termine avec un peu de sport. Michel Platini reste suspendu de toute activité liée au football jusqu'au 5 janvier 2016. Ainsi en a décidé ce vendredi le tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse dans le cadre de l'affaire du versement controversé d'€1,8 million à Platini. C'est un très mauvais signal pour Platini pour la suite de la procédure. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.